qu'importe le nombre. Si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, s'il est seul comme Élie au fin fond d'un désert, Dieu s'approche en silence et vient pour l'écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un troisième s'approche et partage le pain. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont quatre, avec lui présent au milieu d'eux. S'il en est six ou sept, ou bien peut-être douze, alors vient l'Esprit Saint dans les langues de feu, il se pose sur eux pour bâtir son Église. Si la multitude qui loue le Dieu très haut est là, le cosmos se remplit d'un chant d'éternité. Frères et sœurs, vous tous qui êtes à l'écoute chez vous, par ces temps de confinement, sachez que nous sommes là et qu'importe le nombre. Le Christ nous rejoint là où nous sommes. L'Esprit s'approche, le Père nous offre sa grâce et sa paix. Et voici ce que Dieu nous demande de faire avec la force qu'il nous donne. Regarde le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Sois patient, compréhensif, doux et sage. Vois tes semblables comme je les vois moi-même, au-delà des apparences. Vois le bien qui est en chacun, revêt-toi de ma beauté et qu'au long des jours, tu me révèles. Amen. Voilà le chemin sur lequel Dieu nous invite. Et c'est pour cela que je me présente devant le Seigneur en lui disant que malgré nos efforts, nous reconnaissons que nous sommes loin d'être parfaits. Et c'est ce que je vous propose de partager avec Dieu maintenant. Mon Dieu, je viens vers toi en ces temps troublés, car tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. J'ai plaisir à être près de toi et je m'y sens moi-même bien. C'est pourquoi je m'adresse à toi plein de questions. Qu'est-ce que le monde et quel est son avenir? Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Ces questions me minent, me rongent et parfois elles m'étouffent. Alors j'ai peur qu'elles me paralysent. Seigneur, je voudrais tellement savoir quoi faire pour obéir à ta volonté. Et je me trouve découragé, pessimiste, incapable souvent de la moindre vision positive. Oui, je confesse devant toi ma faiblesse, mes peurs, mes limites. Je t'en prie, fortifie ma conscience, ma disponibilité, ma foi. Donne-moi la force de reconnaître le droit chemin, de rayonner parmi mes semblables, de vivre pour un monde plus humain.
Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et mon le bien. Ce que j'ai Amen.
Dieu entend notre prière. Dieu sait bien de quoi nous sommes faits chacun. Il n'a pas honte de nous, il n'a pas honte de notre fragilité, la fragilité de l'être humain, et il y entre de plein pied d'ailleurs, et car il choisit un être humain comme son instrument et il accomplit son miracle là même où on l'attend le moins. Quand les êtres humains disent « perdu », il dit « trouvé ». Quand ils disent « jugé », il dit « sauvé ». Quand ils disent « non », il dit « oui ». Quand les êtres humains détournent les yeux avec indifférence et orgueil, son regard à lui est chargé comme l'une autre de toute la brûlure de l'amour et du pardon. Dieu pardonne nos fautes et nous offre toujours une vie nouvelle. Avant de lire le texte biblique, nous demandons à Dieu de nous rendre disponibles à sa parole. Dans l'océan de nos paroles, dans le tourbillon de nos bruits, une voix cherche à se faire entendre. Ce qu'elle nous dit n'est pas une loi. Ce qu'elle murmure est vérité. Seigneur, pour qu'en ce monde ton règne vienne, donne à tous ceux que tu appelles ton esprit, afin qu'ils t'écoutent avec confiance et qu'ils entendent ta vérité. Amen. Deux lectures à partager ensemble ce matin. La première se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, et je lirai les versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti », et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le deuxième texte que je vous propose se trouve dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Ainsi, donc il y a une manière très différente de le désigner, c'est au livre du Deutéronome, au chapitre 30, un seul verset, le numéro 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà ces deux textes. Et en fait, ce que cela m'a suggéré, c'est une sorte de télescopage avec le discours du président de la République française, le président Macron, qui a prononcé deux allocutions, et notamment la première, qui était une allocution très solennelle, qui a été suivie par plus de 25 millions de Français. C'est un record. Quand on fait un nuage de mots à partir du texte prononcé, on constate que c'est tout autant un discours, en fait, sur l'Europe que sur le virus. Que l'enjeu central est la crise avec les mesures à prendre pour protéger la santé de tous et continuer à vivre. La référence constante à l'Europe montre à l'évidence que l'angle d'attaque était d'abord politique, ce qui, après tout, convient bien à la parole d'un président. Le mot « virus », évidemment incontournable, a quant à lui une connotation médicale, mais pas uniquement. En latin, « virus » signifie « suc, jus, poison ». C'est une substance qui s'écoule insidieusement et qui peut compromettre la santé. Autre mot-clé qui vient d'ailleurs du latin « sanus »,« sain » et « sanitas », »,« santé ». Parler de virus implique donc que rôde un danger sournois menaçant notre intégrité physique qui nous empêche d'être sains. Impossible d'être un optimiste béat devant la nature lorsqu'on traque ces bêtes minuscules au microscope. La nature est pour une part hostile à l'homme. Nous l'avions oublié avec le progrès technique triomphant ou bien l'écologie mettant Gaïa avant l'homme, avant l'être humain. Et ce monde nous est donné comme un lieu de combat contre la maladie, la mort. Nous n'y sommes les bienvenus qu'en restant sur nos gardes, notre intelligence en éveil pour déjouer les pièges de nos prédateurs, qu'ils soient petits et grands. La pénibilité de l'existence nous revient soudain en pleine figure. Un récit de la Genèse évoque la peine qui traverse notre être au monde, depuis qu'Adam et Ève ont été symboliquement expulsés du jardin d'Éden. Gagner son pain à la sueur de son front et accoucher dans la douleur sont deux figures bibliques que nous appellerions aujourd'hui fragilité et finitude de l'humanité. Comme la peste noire du XIVe siècle ou la grippe espagnole de 1918 avant lui, le coronavirus nous rappelle que nous sommes fragiles, mortels, vulnérables à ces poisons qui circulent entre nous à notre insu. Il y a une dimension spirituelle à se souvenir de ce fauve qui rôde cherchant qui dévorer. Le virus est en ce sens une allégorie du péché, je dirais, ce vieux mot que les économistes ou les politiques voudraient obsolète. Ce vieux mot donc qui est capable de compromettre la santé spirituelle de chacun et de tous. Essayer d'effacer le péché de notre horizon nous condamne à le voir revenir plus fort encore à l'image des sept démons dont parle Jésus dans l'évangile de Matthieu que j'ai lu tout à l'heure. La mobilisation générale antivirus nous redit l'importance et l'urgence du combat aussi contre le péché, sans qu'il y ait aucun lien de causalité entre les deux, bien sûr. Vaincre le mal sous toutes ses formes est un enjeu de survie physique, morale et spirituelle. D'ailleurs, l'usage des mots « protéger » et « continuer » par le président de la République disent bien que persévérer dans l'être n'est pas automatique et ne se fera pas sans notre volonté, notre courage, notre intelligence. Protéger sa santé pour continuer à vivre, voilà également un programme à tonalité très spirituelle. Parce que nous minimisons les menaces qui pèsent sur notre vie spirituelle, nous nous exposons à être emportés très vite à tous les vents des modes qui nous éloignent de Dieu. Et le carême est là pour nous inviter à prendre des mesures, tout aussi drastiques que celles du gouvernement en période de pandémie, pour préserver et sanctuariser ce qui nous fait vivre, la Bible, les relations fraternelles, la faim et la soif de Dieu. Thank you. Un autre mot présidentiel résonne très fort dans la culture chrétienne. Le mot « crise ». On connaît les deux significations du mot en grec « krisis », c'est-à-dire « jugement »,« discernement ». Pour les pères de l'Église, la croix du Christ est la crise révélant le cœur et les pensées, la droiture de chacun, avec des surprises comme le bon larron ou le centurion romain se rangeant du côté du crucifié. La crise du coronavirus sert de révélateur de l'envers de la mondialisation à marche forcée, de l'importance du sain, du local dans notre alimentation, et remet en cause souvent les dogmes de Maastricht sur les 3% du déficit budgétaire. Vous voyez, c'est un moment de crise, dévoile ainsi des ressorts cachés, des conséquences oubliées. En ce sens, une crise est toujours spirituelle pour partie. Elle permet de passer au tamis les croyances de son temps, de ne retenir que ce qui est bon et de laisser tomber ce qui paraît corrompu, futile à la lumière des événements. Si la crise du coronavirus peut nous aider à changer nos habitudes de consommation, de déplacement, de production, alors elle n'aura pas été inutile. La crise peut déclencher une conversion des mœurs, des habitudes, des pensées, et toute conversion a une dimension spirituelle. Discerner avec sagesse ce qui est sain de ce qui ne l'est pas a bien quelque chose à voir avec la sagesse du roi Salomon ou la capacité de discernement que donne l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement un acte économique, logistique, c'est un choix à la lumière de la crise qui n'est pas sans rappeler le choix fondamental que Dieu met devant Israël. Souvenez-vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisir de délocaliser ou non des productions vitales, choisir de privilégier ou non des circuits courts, choisir ou non de voyager autrement, parler comme le président Emmanuel Macron de souveraineté, d'autres échanges, d'indépendance nationale, tous ces choix que nous évaluons à nouveau en pleine conscience grâce à la crise relèvent de notre désir de bonne santé pour l'homme, toute l'humanité. Il manque un mot important dans le discours présidentiel et certains commentateurs n'ont pas tardé à le relever. Un mot qui fait peur, mais qui est pourtant à la une en Chine, en Italie, en Espagne depuis des semaines, c'est le mot « confinement ». On était habitué à l'utiliser pour le nucléaire, car l'enceinte de confinement d'un réacteur nucléaire est le bâtiment étanche entourant complètement le réacteur. Ici, le confinement est une mesure spectaculaire qui oblige des millions de Chinois, d'Italiens, d'Espagnols, de Français à vivre dans quelques mètres carrés sans sortir ni voir d'autres personnes pendant 14 jours au moins. Confinement vient du latin « cum » avec « et finis », limite, confin, ce qui signifie « à l'intérieur des limites connues », au sein des frontières. Vivre aux confins du monde connu était autrefois ce qui a donné son nom au Finistère, la terre de la faim, Finistère. Être confiné dans son logement, c'est redécouvrir qu'il y a des frontières salutaires, des solitudes nécessaires, des barrières à ne pas franchir. Parce que le confinement est difficile à supporter. Il nous fait ressentir en creux combien nous sommes faits pour l'échange, la relation, le dialogue en face à face, réel. Parce que le confinement est salutaire, il nous ramène également à l'intériorité, à la capacité d'habiter nos solitudes, à accepter nos limites, nos frontières, notre finitude. Si le confinement devient une purge des toxines d'une mondialisation débridée, s'il limite notre surconsommation de tout, alors un autre visage de l'économie, de la politique, pourra peut-être voir le jour après la crise. On pense aux jeûnes du carême salutaire pour la vie spirituelle. On pense aux retraites dans le cloître d'un monastère. Se restreindre volontairement quelques jours permet de retrouver entre ses murs une respiration, une liberté intérieure sans égale. Le confinement dans un cluster ou un pays entier demande à chacun, chaque famille, chaque individu, chaque ville ou région, non de se replier sur soi, mais de retrouver la joie de vivre avec soi-même, sans tout demander aux autres, sans s'épuiser à accumuler des choses, sans se disperser en mille soi-disant relations, en vérité très futiles, superficielles, légères. Il faut cultiver notre jardin, écrivait Voltaire. Si la quarantaine peut nous tourner vers notre jardin intérieur, pourquoi ne pas l'accueillir avec joie ? Ah, voyez-vous, crise, virus, santé, protéger, continuer, confiner, ces mots de la période actuelle peuvent, malgré les souffrances et les morts des victimes du coronavirus, réveiller notre soif d'être au monde autrement que comme consommateur et prédateur. Et cela, c'est un combat authentiquement spirituel. Amen.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois, j'espère une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant.
Prions les uns pour les autres. À toi, Seigneur, qui marches au milieu de nous. À toi, Seigneur, qui connais les difficultés de notre chemin. À toi, qui nous conduis vers la victoire de la vie. À toi, nous confions notre prière ce matin. Pour ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse, tout près de chez nous, dans notre ville, dans notre quartier, comme aussi dans les pays lointains. Pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont besoin de nourriture, d'abri, de soins, mais aussi d'amitié, d'estime, de justice, nous te prions. Nous te prions, mon Dieu, pour ceux qui agissent par générosité humaine, seuls ou dans les services médicaux aujourd'hui, dans les services sociaux aujourd'hui, dans les églises ou dans les associations pour nourrir, soigner, secourir, s'interposer, protéger. Renouvelle leur force. Nous te prions pour les isolés, pour les détenus, pour les malades, pour ceux qui sont en deuil. Nous te prions aussi pour les autorités de notre pays et des pays voisins et pour nos concitoyens. Inspire à chacun respect pour soi-même et pour l'autre. Inspire à chacun des gestes de fraternité et de paix. Seigneur, nous mettons entre tes mains nos projets et nos espoirs, nos inquiétudes et nos doutes. Nous te le disons, chacun là où il est, ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord.
Comme dans un culte normal ou anormal, je ne sais pas comment il faut dire, un culte radiophonique, il y a aussi des moments d'annonce et je voudrais partager avec vous donc quelques informations concernant la vie de l'Église à la fois ici à Nîmes, dans notre région, dans notre pays, mais aussi avec les communautés réformées de l'Église française de Saint-Gall, dans le canton de Saint-Gall en Suisse, qui eux aussi nous font l'amitié de nous écouter à travers le site internet de la radio. D'abord, une information concernant Nîmes, un appel de l'APA, un appel urgent. Donc, voilà, une information qui est venue de l'hôpital de Grenoble et explique comment il faut faire en fait, des masques de façon artisanale, puisque vous savez qu'on manque de masques dans les pharmacies, on n'arrive pas à en acheter. Donc il y a une possibilité, là, une proposition qui est faite de faire des masques de façon artisanale. Et un appel est lancé à tous les paroissiens et paroissiennes qui le peuvent de participer à cette fabrication artisanale de masques au profit de l'APA qui en a cruellement besoin. Pour toutes ces questions, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'Église. C'est nimesegliseprotestanteunie.fr. nimesegliseprotestanteunie.fr. Ou bien vous adressez à l'un des pasteurs donc, de l'Église protestante unie, qui vous diront donc, la démarche à suivre. On aura l'occasion, sur ces ondes-là, justement, d'essayer d'aborder cette question avec la responsable de l'APA. Vous dire aussi, pendant ce temps d'annonce, que tous les dimanches, jusqu'à la fin du confinement, Radio Alliance Plus vous proposera le dimanche matin un culte à 10h30. Et puis aussi pour le vendredi saint, déjà vous pouvez noter cela, ce sera le vendredi 10 avril, un culte à l'occasion du vendredi saint vous sera proposé aussi sur les ondes à 10h. Et le mardi et le jeudi de 11h à midi, un temps de ondes ouvertes, vous pourrez intervenir en téléphonant ou en envoyant des questions ou des suggestions par internet et nous serons trois à essayer de répondre à ces questions, d'échanger avec vous, avec les pasteurs Joël Baumann, Christian Delors et puis moi-même Redouane Esbanti. Voilà pour la vie de nos communautés. Et puis on continuera à partager et à trouver avec vous toutes les suggestions que vous nous ferez, dont nous ferez part, hein, que ce soit sur le site de l'Église ou bien même, pourquoi pas, à Radio Alliance Plus. Voilà la fin de notre culte. Et avant la fin de notre culte, ou de continuer notre culte, encore, disons, un cantique. « Prends ma main dans la tienne ».
Thank you.
Écoutez, pour cette fin de culte, ces quelques mots et ces quelques paroles d'encouragement. J'ai dit à Dieu que sa Pâque ne valait pas grand-chose et que son esprit n'était pas efficace. Que toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, toutes ces maladies, tous ces virus et tous ces assassins. Et Dieu m'a répondu, c'est à toi que j'ai remis mon esprit. Qu'en as-tu fait ? Qui fera la justice si tu ne commences pas à être juste ? Qui fera la vérité si toi, tu n'es pas vraiment sincère ? Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères et sœurs ? C'est toi que j'ai envoyé porter la bonne nouvelle. Alors, soyons assurés que Dieu nous accompagne. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous comme une main sur votre épaule. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous comme un sourire d'amitié. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous aussi proche qu'un clignement des yeux. L'Esprit Saint vous guide tous et conduit chacun d'entre vous sur la route dans la paix. Amen.